Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on interrompt notre spécialité fiscale un court instant pour plonger sur les marchés. C'est important aussi, bien évidemment, dans votre stratégie patrimoniale, de bien saisir toutes les subtilités qui font bouger nos grands indices, nos marchés obligataires, etc. Et pour ce faire, c'est Alexandre Baradez qui nous rejoint. Bonjour Alexandre.
Bonjour Cédric.
Pour IG, si j'ouvre la porte de votre bureau, Alexandre, qu'est-ce que je trouve finalement que vous regardez tous les jours? Quels sont un petit peu finalement les éléments qui vous permettent d'appréhender le contexte financier au sens le plus large actuel?
On regarde d'abord l'environnement macro. C'est-à-dire avant de regarder les marchés, on regarde la macroéconomie et on a quand même une macroéconomie mondiale qui est assez désynchronisée. C'est-à-dire qu'on a une économie américaine toujours assez rutilante, des niveaux de croissance attendus pour le troisième trimestre encore supérieurs à 3%. Face à ça, vous avez une zone euro qui est plutôt embarquée dans une situation économique plutôt molle, avec une Europe du Sud qui tient plutôt très bien, une Europe du Nord, notamment l'Allemagne, beaucoup moins bien, puis une France un peu entre les deux avec ses enjeux fiscaux. Et puis, il y a une zone Asie où on sent que ça commence enfin à bouger un petit peu sur la Chine avec des décisions un peu plus de stimulation économique, soutenir le marché immobilier. Et tous ces niveaux-là donnent une vision finalement assez désynchronisée du monde et donc aussi des marchés mondiaux qui n'ont pas tous la même trajectoire.
Alors justement, cette macroéconomie, puisque vous la mettez sur le devant de la scène, elle est notamment drivée par nos banquiers centraux. Alors c'est un peu loin maintenant, puisqu'on est déjà, on touche à la fin du mois d'octobre, mais il y a eu ce symposium de Jackson Hole, qui est un peu la grande messe de nos banquiers centraux. Et quand on les a écoutés, ils nous ont dit « oui, bon, on est assez satisfait de notre action, mais on n'est pas au bout ». Enfin, on les sentait un petit peu, allez, permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Est-ce que vous partagez un peu ce sentiment ou vous les trouvez sévères envers eux-mêmes?
Alors, déjà, le mois d'août, ça remonte finalement. À l'échelle des marchés de la macro, ouais, finalement, c'est déjà assez loin. Parce que quand on regarde pour la zone euro les chiffres d'inflation qu'on a eu en l'espace de 2-3 mois, il y a de sacrés progrès réalisés vers l'objectif. Il y a même des pays qui sont tombés sous les 2% en termes d'inflation.
Donc vous êtes plutôt satisfait?
Alors, pour la BCE, je pense qu'elle peut être satisfaite parce qu'effectivement, elle se rapproche de plus en plus de l'objectif. Alors, attention quand même qu'il faut bien distinguer toujours deux choses. Il y a l'inflation globale qui inclut absolument tout. Et puis la fameuse inflation sous-jacente, qui est celle que regardent les banquiers centraux, aussi bien faite que BCE, et qui, elle, est hors alimentation et hors énergie. Et c'est vrai qu'on voit qu'en zone euro, l'inflation globale n'est plus vraiment un problème, l'inflation sous-jacente est toujours plus proche des 3% que des 2%. Ouais. Et donc on voit bien que pour la zone euro, il y a quand même un impératif, et on l'a bien compris dans les messages, la Banque Centrale Européenne, c'est de préserver quand même la croissance à tout prix, de ne pas faire tomber l'économie européenne en récession, et l'Allemagne est assez mal placée pour ça, et donc de s'assurer que la croissance tienne, tout en ayant quand même un œil sur les services où l'inflation persiste un peu. Mais c'est vrai que la Banque Centrale Européenne, selon moi, a quand même beaucoup moins de crainte que la Fed. La Fed, effectivement, elle peut se targuer d'avoir une économie américaine qui est extrêmement résiliente, et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on était tous là à surveiller depuis des trimestres, même des semestres, à quand le landing, le fameux soft landing, ou landing tout court. Et quand on regarde les trois derniers trimestres de l'économie américaine, ça va accélérer, ça ne veut pas atterrir. Et pour autant, et c'est ça qui est incroyable pour la Fed, c'est que l'inflation, elle, a quand même pas mal ralenti, mais l'inflation sous-jacente, cette fameuse inflation sous-jacente, aux États-Unis, vous avez deux mesures, l'une d'entre elles est encore à 2,7%, et l'autre est à 3,2%. Donc, on est toujours dans une zone où la Fed a pu baisser un peu les taux parce qu'on n'est plus à des niveaux d'inflation sous-jacente à 6 ou 7, mais elle a encore ce fameux dernier kilomètre qui n'est pas encore réalisé. Et si elle est trop accommodante trop tôt, le risque, c'est qu'en fait, l'inflation redémarre un petit peu. Donc je dirais qu'elle a la grosse vigilance aujourd'hui, c'est du côté de la Fed qu'il faut l'avoir et moins du côté de la BCE par rapport à l'inflation.
Et s'il faut regarder d'autant plus les États-Unis, c'est qu'il y a ces aspects macro, conjoncturels, inflation, BCE, réserve fédérale, mais il y a aussi, plus que jamais, l'aspect politique. Enfin, on est à quelques semaines, quelques jours, de l'échéance attendue depuis maintenant des mois et des mois de cette élection présidentielle américaine, avec tout ce que ça veut dire aussi pour la Fed. C'est-à-dire qu'elle a agi alors que la tradition voulait qu'elle n'agisse pas à cette période-là. Donc
Oui, c'est effectivement, elle a tiré en plus un coût assez important, c'est-à-dire 50 points de base pour démarrer un cycle de baisse de taux, même si elle ne dit pas que c'est un cycle, c'en est un quand même, quand on a monté les taux comme ça aussi rapidement qu'on a fait un plateau haut pendant plusieurs trimestres, c'est bien le début d'un cycle, mais faire 50 points de base, effectivement, l'inflation a fait des progrès pour justifier qu'on baisse un peu les taux, mais est-ce que Jérôme Powell n'a pas voulu acheter un peu la tranquillité sur les marchés jusqu'à l'élection, au risque du coup de baisser d'être un peu trop, et la dose un peu trop forte au départ de baisse de de taux, alors que l'inflation a encore un bout de chemin à parcourir. Et c'est sûr que c'est un pari d'autant plus, alors je ne sais pas si on peut dire risqué, mais qu'il fallait oser faire quand même, parce que vous avez vu que dans les sondages, depuis une quinzaine de jours maintenant, Donald Trump rattrape son retard par rapport à Kamala Harris. Et sur les marchés, on voit tout à fait la traduction, c'est le fameux Trump trade, c'est-à-dire cette conjonction d'éléments où vous avez le dollar qui monte, les taux qui montent, parce que Donald Trump est perçu comme un candidat reflationniste. Et là, je pense que vous voyez où on va en venir, c'est que si c'est bien Donald Trump qui est élu et qu'il applique un programme qu'il est celui qu'il présente, à savoir des baisses d'impôts, une stimulation économique toujours, qui est l'ADN de Trump, on va dire, eh bien, son programme va se retrouver en collision frontale avec la Fed, ouais, parce ça. Que le risque, c'est que l'inflation n'atterrisse pas et que la Fed, non seulement, rappelons une chose, c'est que les marchés aujourd'hui anticipent 150 points de base, c'est-à-dire 1,5% de baisse de taux dans les 14 prochains mois. Si on a un candidat inflationniste qui arrive, qui n'arrive pas à résorber les déficits et qui continue de stimuler la machine économique, eh bien, ces baisses de taux n'interviendront pas. Et dans ce cas-là, il y aura un risque, effectivement, que la Fed subisse un accident monétaire, c'est-à-dire qu'elle a laissé penser qu'une chose allait se réaliser, et si c'est Donald Trump qui arrive... Et qui...
D'autant que Trump voilà. a une potentielle velléité de museler ou de domestiquer un peu la Fed.
Oui, c'est ça. Je ne sais pas si pour les marchés à ce stade, c'est le plus important, c'est-à-dire que le marché s'enthousiasme en ce moment. Quand au moment où on se parle, il s'enthousiasme, donc le dollar monte, les taux montent, les marchés, les indices américains, le S&P 500 et le Dow Jones ont battu des records, et on voit même des actifs comme l'or, par exemple, l'or qui monte, s'il y a la géopolitique évidemment là derrière, mais il y a aussi beaucoup le scénario de l'inflation qui peut réaccélérer sous Trump. Des actifs comme le Bitcoin également qui montent beaucoup depuis une dizaine de jours et ça correspond pile poil au moment où dans les sondages l'écart commence à se resserrer. Donc ce Trump trade, il est sympa pour ceux qui sont investis sur les marchés américains parce que ça tire les marchés à la hausse, mais il pose quand même des interrogations sur la marge de manœuvre dont disposera la Fed si effectivement c'est bien Trump qui a emporté cette élection.
Vous avez dit rapidement un mot de l'Europe aussi. Qu'est-ce qu'il en est des menaces qui pèsent sur l'Europe? Parce que vous avez rappelé que le one size fits all, ça n'existe toujours pas. Hein. Ça va pas pareil au nord et au sud. Il y a des tiraillements sur ce que c'est que l'inflation, comment on doit la traiter, à quel moment les choses se normalisent. Qu'est-ce qu'on peut en dire menaces à nous?
Oui, alors c'est vrai qu'on est finalement ce qu'on vit depuis 2022, on est toujours un peu dedans. Finalement, il y a toujours la guerre à l'Est, qui influence beaucoup moins les marchés. Par contre, c'est plus les matières premières ne sont plus sur les niveaux de 2022, donc ça s'est normalisé sur le front des matières premières. Cette géopolitique est quand même toujours présente. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu dans le monde d'après, notamment pour l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, récemment, un de ses ministres a dit qu'il aimerait que la BCE accélère le rythme sur les baisses de taux. Et on parle même de l'Allemagne, de l'orthodoxie budgétaire, la rigueur monétaire notamment. Eh bien, on se rend compte que l'Allemagne, effectivement, est dans un cycle qui est quand même très négatif depuis 2 ans, pas de croissance depuis 2 ans quasiment. Alors, vous avez des pays du sud de l'Europe qui ont fait des réformes assez courageuses, et qui, aujourd'hui, les taux de croissance qui sont nettement supérieurs à ce qu'on avait il y a quelques temps. Donc, je suis quand même plutôt assez... je sais que c'est peut-être pas le moment de le dire aussi fortement, mais moi, je suis pas très négatif pour la zone euro. C'est-à-dire que je pense que le rapport Draghi a quand même servi d'éléments. Alors, des éléments déclencheurs, il y en a quand même beaucoup pour la zone euro, il y a des crises ici ou là, mais ce rapport est quand même important parce qu'il montre qu'il faut quand même aller de l'avant, réformer, proposer des choses de manière plus collective, etc. De l'autre côté, ce qui est très bien à voir, c'est que la France, son problème budgétaire, il n'y a pas d'effet de contagion. C'est-à-dire que c'est le problème de la France. Il n'y a pas eu d'effet de contagion en Italie, au Portugal ou à l'Espagne, alors qu'en 2012, c'était ça la crise de la dette. C'était vraiment une contagion globale. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, là, si en plus l'Allemagne peut recevoir des baisses de taux de la BCE sans trop broncher, ça l'arrange même pas probablement beaucoup d'avoir des baisses de taux, ben finalement, c'est plutôt un contexte où ça va à peu près à tout le monde, cette situation-là, où l'inflation baisse, la BCE envoie ses baisses de taux, et je pense que la Chine qui fait de la relance, ça c'est important aussi, à un moment donné, dans quelques mois probablement, mais ça va commencer à bénéficier des pays comme l'Allemagne par les questions des moteurs exports notamment.
Mais ça veut dire, Alexandre Barnès, que vous évacuez, là, on est en pleine, j'ai presque envie de dire édition spéciale de Cœur de Patrimoine sur le projet de loi de finances, vous évacuez le cas français d'un revers de main en disant finalement, c'est pas important ?
Non, je l'évacue pas, mais vous regardez par exemple depuis une quinzaine de jours, en fait depuis qu'on a commencé à aller à l'Assemblée, Michel Barnier, ses discours devant l'Assemblée, les propositions, etc., qui ont été faites par le gouvernement, on a plutôt un resserrement, alors on sait que c'est des choses qui peuvent varier très vite, mais on a plutôt un resserrement de l'écart entre le taux 10 ans français et le taux 10 ans allemand, c'est comme ça qu'on mesure un peu le risque les marchés,
ça se normalise, entre guillemets.
Ça s'est un peu renormalisé, on était à 0,8, on est revenu vers les 0,7, donc il n'y a pas en tout cas de tension supplémentaire sur ce front-là, et encore une fois, l'aspect de non-contagion par importance. C'est-à-dire que voir que ça ne touche que la France, dans le même laps de temps par exemple, il faut regarder ce même écart Italie-Allemagne, les taux se resserrent. D'accord. On est sur des niveaux, des écarts de taux les plus faibles depuis 2021, Italie-Allemagne. Donc c'est une problématique française, mais pour l'instant, ce que l'on voit des négociations à l'Assemblée, et on verra ce qu'il en sera dans les jours qui viennent, mais pour l'instant, ça n'inquiète pas plus les marchés que ça. Et je pense que ce qu'il faut regarder un peu, encore une fois, à moyen terme, il y a l'aspect fiscal, mais ça, je pense qu'on fera ce qu'il faut. Les agences, comme sont vigilantes, et la France comprend l'intérêt qu'elle a à faire les choses correctement par rapport aux prêteurs internationaux. Mais il me semble que un peu le game changer de cette fin d'année pour l'Europe, c'est la Chine, justement. C'est la Chine qui, pendant 3 ans, est embourbée dans une situation pas terrible. Ça ne veut pas dire que les mesures que la Chine a prises seront tout de suite visibles dans son économie et stimuleront, du coup, par effet collatéral de la zone euro. Mais je pense quand même qu'il y a une prise de conscience en Chine de la difficulté économique. Et plus les mesures vont s'accumuler en Chine, plus ça, progressivement, ça améliorera aussi la situation de la zone euro et des pays comme la France ou l'Allemagne.
Une fois qu'on s'est dit tout ça, Alexandre Baralès, qu'est-ce que vous auriez envie de recommander aujourd'hui à un épargnant, à un investisseur, averti certes, mais voilà, qu'est-ce que vous lui diriez pour cette fin d'année ?
Alors, il y a quelques, j'aime pas le mot pari, mais il y a quelques orientations stratégiques qu'on peut faire. Je pense par exemple que travailler sur le secteur des énergies renouvelables, qu'on pourrait dire un secteur en bourse, j'entends, tout ce qui a été perdu post-Covid, une grosse bulle en fait, ce secteur, tout ce qui est éolien, etc., énergie renouvelable, les valorisations étaient montées à des niveaux complètement stratosphériques, ça a totalement corrigé et ça reste très bas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de secteurs qui avaient corrigé post-bulle 2021-2022. Beaucoup de secteurs ont retrouvé leur niveau record. C'est pas le cas pour les énergies renouvelables. Donc je pense qu'on voit bien que pour la Chine, c'est aussi une priorité. Pour l'Europe, ça reste toujours un engagement fort. Pour les États-Unis aussi. Donc je pense à un secteur qui va retrouver un intérêt dans les mois à venir. Le secteur ensuite, comme je pense quand même qu'on n'est pas parti, je parlais des marchés américains. Moi, j'ai trouvé un peu cher ces marchés américains. 22 fois les bénéfices anticipés, c'est quand même des normes et des métriques historiques plutôt élevées. Donc il me semble qu'on va plutôt quand même vers un peu plus de volatilité sur les marchés américains dans les mois qui arrivent, peut-être les 1 à 2 trimestres qui arrivent. Et donc, je pense que dans des portefeuilles, mettre par exemple, et notamment en Europe, des valeurs européennes, hein, des télécoms, des utilities, ça, ce sont des secteurs qui ont très bien marché ces derniers mois. Et je pense, dans un environnement qui est toujours un peu mouvant d'un point de vue économique et peut-être un peu budgétaire au niveau US aussi, ça reste des cœurs de portefeuille mais qui performent très bien ces derniers temps. Donc, je vois toujours beaucoup de potentiel pour les télécoms, pas mal de potentiel pour tout ce qui est valeur un peu infrastructure, donc hein, tout ce qui est services aux collectivités ou autres, voilà, donc ce qu'on appelle les utilities. Je pense que les banques aussi européennes, toujours, même si elles ont, c'est un des meilleurs secteurs cette année, les banques européennes, on est sur du 20% quasiment de performance annuelle, je pense que continuer à les jouer à la hausse, ça me paraît pertinent parce que, certes, la BCE baisse ses taux, donc ça comprime un peu les marges bancaires, mais les volumes de crédit vont se redéployer plus fortement, donc ce sera favorable pour l'immobilier et pour les entreprises. Et donc, je pense que voilà, la petite compression des marges qu'on pourra avoir par les baisses de taux de la BCE sera compensée par les effets volumes. Et donc, voilà, je pense que le potentiel est toujours bien présent pour les banques européennes. Et après, si on regarde géographiquement, je préfère par exemple aujourd'hui acheter de l'Europe, mais ça paraît paradoxal de le dire quand on a les perfs économiques, mais l'Europe est moins chère. Il y a pas mal de secteurs qui sont attrayants en Europe, des indices, les indices italiens par exemple, en Italie on en parlait, qui va mieux, qui parle d'un déficit à moins de 3% d'ici 2026, voilà les indices type FTSE MIB italien, je pense que c'est un très bon coup à jouer dans les 1 à 2 ans qui arrivent et qui plus est derrière. Et ensuite, quelques thèmes, ça a déjà été pas mal joué par les marchés et les spéculateurs aussi, c'est la Chine, voilà, on a eu des rebonds titanesque, hein, de 40-50% de certains indices chinois. C'est bien retombé depuis. Donc je pense que jouer ce second rideau de hausse peut être intéressant, justement, comme les marchés sont retombés. Continuer à jouer le côté, non pas bazooka de la Chine, il n'y aura pas de bazooka, je pense, mais cette accumulation de mesures. On voit que c'est une espèce de rouleau compresseur où on empile les mesures comme ça, et à un moment donné, il y aura suffisamment de mesures, et puis les indices chinois se stabiliseront. Donc je pense que la Chine, jouer un peu la Chine, encore une fois, ça reste un pari toujours risqué, mais en mettre un peu dans ses portefeuilles me paraît opportun, et tout ce qui est le thème émergent globalement me paraît toujours opportun.
Alexandre Baralès pour IG vous donner ces quelques conseils éclairés. Merci d'être avec passé plaisir dans Cœur de Patrimoine. Et tout de suite, on reste au contact de votre épargne, de votre patrimoine. Et on parle fiscalité.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.